Salut tout le monde, ici Kevin Breton au micro de Aime la vie. Aujourd'hui, une belle émission que Clotilde et moi nous vous avons préparée. Il sera notamment question de tourisme accessible. On va parler avec Isabelle Ducharme de l'organisme Kéroule, d'un nouvel investissement majeur pour les sites touristiques qui voudraient rendre leur installation accessible aux personnes avec différents handicaps. On va même parler avec le gîte Vita Bella à Saint-Adolphe-d'Howard qui a reçu des mentions pour son accessibilité ces derniers jours. Également dans l'émission, Clotilde a réalisé des entrevues avec l'association québécoise de la douleur chronique. On va également parler de danse et on commence en s'offrant comme cadeau de Noël du théâtre en théâtre aux descriptions. Très heureux d'être avec vous et au bout du fil, on rejoint pour commencer cette émission Monsieur Sylvain Noël de Connecté qui vient nous parler de théâtre aux descriptions comme à son habitude, comme il a l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, il nous apporte une bonne nouvelle, une nouvelle pièce qui sera offerte, accessible aux amoureux du théâtre pendant les fêtes. Bonjour Monsieur Noël.
Bonjour Monsieur Breton.
Vous avez appris donc une bonne nouvelle récemment, une nouvelle collaboration sur les planches.
Absolument. Nous avons signé cette semaine une entente de collaboration avec les créations Blizzard au Théâtre du Vieux-Terrebonne pour l'adaptation du spectacle musical Avalanche qui fête cette année leur 10e anniversaire. Ça fait 10 ans qu'à chaque année, une semaine avant Noël, plus ou moins, cette production-là à grand déploiement avec des chorales et des danseurs et bref, il y a beaucoup à voir et à entendre.
Vous l'avez déjà vu.
Oui.
Vous l'avez déjà vu cette pièce-là, donc c'est une pièce qui est déjà à prime abord avant même d'avoir été rendue accessible, très très sonore comme création.
Exactement, c'est une pièce où en gros, c'est deux familles qui se réunissent là, pour fêter Noël dans un chalet dans le nord. Et puis, il y a une avalanche, d'où le nom de la pièce. Et puis là, ben, les familles sont coincées dans ce village-là pendant plus d'une semaine. Et là, ben, doivent passer le temps, comme on dit. Et puis, puisqu'on est dans le temps des fêtes, ben, ils décident là, de chanter, puis de danser, puis de faire plus ample connaissance. Il y a des situations cocasses là, qui se présentent là, comme dans toute famille. Mais bref, c'est un show de pratiquement 3 heures. Si on calcule l'entracte. Mais le tout va être maintenant accessible aux personnes non-voyantes parce qu'au-delà des rigodons et des cantiques de Noël, bien c'est sûr qu'il y a du jeu, il y a une pièce de théâtre et puis Madame Marie-Thérèse Brousseau était enchantée là, de savoir qu'on pouvait rendre son œuvre accessible aux personnes non-voyantes.
Elle a tout de suite accepté?
Pardon?
Elle a tout de suite accepté de rendre accessible sa pièce?
D'emblée, écoutez, ça pouvait pas mieux tomber avec le 10e anniversaire. Alors, on a signé le contrat et puis on est à pied d'œuvre actuellement. Nos narrateurs sont en train d'écrire le texte narratif et puis toute la production complète est enchantée de savoir que, bon, pour leur 10e anniversaire, cette production-là va être accessible aux personnes non-voyantes et aussi, faut pas se le cacher, aux personnes qui ont des limitations auditives. Alors, même s'il y a des haut-parleurs et même si tout le monde est mic'é, comme on dit en bon français, bien, il y a quand même du jeu là, qui est moins tapageur, si je peux dire. Oui. Et puis à ce moment-là, ben nous, on arrive avec notre support acoustique d'appoint, avec notre système là, qui est.
Oui, parce qu'on sait que c'est une clientèle qui est grossissante aussi également, là, les personnes âgées notamment qui ont des problèmes d'ouïe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce dispositif-là qui permet aux spectateurs aveugles d'entendre l'action, ça a été à la base conçu pour des personnes malentendantes.
Oui, absolument. Le système Sonizer là, que nous possédons et que nous exploitons depuis 2 ans a été conçu à la base là, pour les personnes avec des implants cochléaires, avec des prothèses audio, et puis nous l'avons utilisé, nous l'avons adapté, si je peux dire, pour faire entendre la voix de notre narrateur via n'importe quel téléphone intelligent, que ce soit Android ou Apple ou n'importe quelle tablette. Les gens arrivent, on va avoir des bénévoles sur place qui vont guider les gens pour bien les accompagner là, dans le branchement de notre système. Mais on n'a absolument pas besoin d'emprunter aucun appareil. Nous en avons à passer, naturellement. On a 24 iPods à passer, mais les gens qui arrivent avec leur téléphone intelligent, munis de l'application Sonizer Mobile Connect, ben à ce moment-là, peuvent arriver et puis se brancher avec leurs écouteurs et avoir le parfait contrôle de la voix des comédiens ou encore entendre la voix de notre narrateur qui va expliquer qu'est-ce qui se passe sur scène.
Pour ceux qui sont surtout habitués à la vidéo description ou à l'audio description, est-ce que l'audio description ou la théâtro description théâtre, ça ressemble pas mal?
C'est similaire. À la différence, c'est que dans une pièce de théâtre, ben, c'est pas enregistré. À la télévision, c'est sûr que la voix du narrateur, elle est enregistrée. Puis bon, les gens qui sont en post-production savent exactement combien ils ont de temps pour ne pas empiéter sur le dialogue des personnages à la télévision. Nous, c'est en direct, hein, c'est du live.
Il y a un aspect plus spontané sur lequel les narrateurs doivent, avec lesquels les narrateurs doivent composer.
Exactement, puis sans compter les éléments imprévus, les coquins. Bon, il y a des éléments cocasses qui arrivent des fois, et puis nos narrateurs sont très aux aguets, et puis tout élément est prévu. Ben là, à ce moment-là, nos narrateurs sont habitués là, de faire dans l'impro, dans l'improvisation, donc vont pouvoir décrire aussi là, tout élément est prévu qui pourrait arriver. Là.
Et reproduire, en fait, fidèlement ce qui se passe sur scène, que ce soit écrit
Exactement.
Dans le texte ou non.
Exactement.
Vous, Sylvain, oui. vous avez l'âme artistique, vous êtes un comique dans l'âme, vous vous êtes rapidement intéressé à tout ce qui était showbiz, théâtre, cinéma, mais qu'est-ce qui vous a amené par la suite à connecter ça au monde de la cécité et de la basse vision?
Ben écoutez, moi j'ai fondé ma troupe de théâtre, moi aussi, il y a 10 ans. L'Académie théâtrale en vol de Laval, nous l'avons fondée en 2007. Nous avons 16 productions à notre actif. J'ai joué dans plusieurs d'entre elles. Je suis quelqu'un qui est un amant de la scène. Mais lorsque ma sœur, Sylvie Noël, est devenue aveugle en avril 2012, eh bien, mon frère et moi, on est devenus accompagnateurs. Et puis là, ben, on s'est rendu compte en accompagnant notre sœur qu'il n'existait rien au niveau culturel pour impliquer les personnes non-voyantes. Et puis là, ben, puisque nous avions cette troupe-là à Laval, ben, nous avons décidé de développer le concept de théâtro-description. Et les instances gouvernementales, municipales, plus principalement, nous ont grandement aidés via la Conférence régionale des élus à l'époque et puis Laval Développement économique maintenant, le pôle régional d'économie sociale a emboîté le pas aussi, puis nous ont aidés à développer ce concept-là qui maintenant rayonne un petit peu partout au Québec. On a
Merci.
Même été présenté à Victoriaville le printemps dernier.
Merci beaucoup, M. Sylvain Noël. Je suis certaine que votre sœur va aimer cette pièce, L'Avalanche. Il reste encore des billets disponibles. On peut s'informer à la billetterie du Théâtre du Vieux-Terrebonne. Sans frais au 1-866-404-4777. Le 1-866-404-4777. Et on n'oublie pas de vous suivre sur facebook.com/audio-description. Merci beaucoup, M. Noël.
C'est moi qui vous remercie, M. Breton. Au revoir.
Et on continue à Culture avec une autre entrevue de danse sur une compagnie de danse qui a réalisé ma collègue Clotilde Seille.
Bonjour Kevin et bonjour tout le monde. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter une compagnie de danse qui, bon, remarquez qui n'est pas toute neuve, hein, qui existe déjà depuis pas mal de temps. Mais je trouve que la vocation notamment d'un de ses plus récents spectacles méritait qu'on s'y intéresse dans le cadre de cette émission Aime la vie. Et j'ai la personne toute désignée pour nous en parler de cette compagnie de danse cas public. C'est Michael Spinirny. Bonjour, Michael.
Bonjour.
Michael, vous êtes directeur des communications et du développement, hein, de cette compagnie de danse cas public.
Exactement.
Faites-nous un petit historique. Ça a été créé par Hélène Blackburn, hein, cette compagnie.
Oui, c'est bien ça. Donc, c'est une compagnie qui a été fondée en 1989 par Hélène.
Okay.
La compagnie, donc, fête ses 28 ans cette année et qui a quand même pour particularité de s'intéresser depuis maintenant une quinzaine d'années à tous les publics. Donc, on ne s'adresse pas nécessairement qu'aux adultes. On a aussi des
D'accord.
propositions pour les adolescents et pour les plus jeunes.
Et ça représente combien de monde, cette compagnie-là? Vous êtes combien à l'intérieur de la compagnie? Combien de danseurs?
Alors, on parle de 5 danseurs permanents et 3 danseurs qui sont là par projet, donc une équipe
D'accord.
de 8 danseurs.
Okay.
Et autour de tout cela, il y a quand même 2 techniciens, une chorégraphe, une maîtresse de ballet et 4 personnes à temps plein au bureau. Parce qu'il faut savoir que c'est une compagnie qui a la chance de voyager énormément. Donc ça prend quand même pas mal de ressources.
J'imagine. Et dites-moi, pourquoi ce nom de cas public? Parce que... Non, mais c'est vrai, c'est une question qui s'impose.
Oui, et puis je pense que c'est un choix de direction, dans le sens où Hélène aurait pu décider d'appeler sa compagnie Hélène Blackburn Dance ou quelque
oui,
chose autour de son nom. Et au contraire, je pense que pour Hélène, c'était important d'arriver avec quelque chose de collectif. Capublic, c'est une compagnie où il y a un dialogue qui est très ouvert, où chaque personne peut donner son opinion, et c'est vraiment un travail
ah, oui.
collectif.
Ok, d'accord. Alors, il y a le cas, littéralement, Kay Glover, est-ce que je le prononce bien?
Kay Glover.
Kay Glover, ouais. Ok. Bon, il est malentendant, il est danseur chez vous, c'est un danseur permanent, hein. Il est malentendant. J'ai lu quelque part, hein, en préparant cette entrevue, hein, un article qui était sorti dans la Tribune où on parlait de l'audition de Kay Glover, la première fois mm-hmm. qu'il a auditionné pour Hélène Blackburn. Il vit avec une différence, en l'occurrence, il est malentendant, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Donc,
appareil, hein?
Un appareil, oui, sinon il est complètement sourd sans son appareil.
Bon, et voilà que cet homme danse.
Oui.
Non, mais c'est parce que moi, c'est ça qui m'a interpellée. Et je voudrais qu'on en arrive là, que vous nous parliez d'abord de Kay Glover et de ce spectacle qui est présenté sur la musique de Beethoven.
Oui.
Lui-même
oui.
atteint de surdité.
Oui, et je pense que c'est un parcours très touchant.
Oui,
parce
hein.
que Kay, en fait, est devenu sourd à l'âge de 8 ans, à la suite d'une méningite.
Ah.
Et rapidement, ses parents l'ont implanté, donc il a quand même pu entendre. Et il a poursuivi, du coup, sa formation de danseur professionnel. Mais c'est sûr que c'est un métier difficile. C'est un métier où il y a peu d'élus. Et qui plus est, lorsqu'on est sourd, ce n'est pas nécessairement facile. Je pense qu'il y a des compagnies de ballet, par exemple, qui avaient peur d'embaucher Kay, dû à cette différence. Lorsqu'il est venu auditionner à Capublic, maintenant, il y a 6 ans, je pense qu'on ne s'est même pas posé la question, parce que Kay, pour Hélène, c'était un danseur exceptionnel et c'est ce qui comptait, c'était le plus important.
Ouais.
Ça a mis quand même un certain temps pour que Kay s'adapte à cette vie de compagnie. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces appareils, lors des spectacles, avec la transpiration, s'arrêtaient. Donc ça veut dire qu'il était au milieu d'une représentation, en train de danser. C'est un travail extrêmement précis, le travail d'Hélène, un travail qui est très très musical, et ses appareils lâchaient en plein spectacle avec la transpiration, donc il devenait complètement sourd. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le plus souvent Kay se fâchait après ce genre d'événement-là, mais ce qu'il y avait de magnifique, c'est que Kay dansait encore mieux lorsqu'il était sourd à 100%, parce que il embrassait sa différence, cette perte-là finalement devenait une force, et c'est en dialoguant avec lui, c'est en échangeant pendant plusieurs années que Hélène et lui ont eu envie de faire une création autour de sa différence à lui, autour de ce qu'il avait perdu, et la création du nouveau spectacle, à savoir Neuf, il l'a fait sans ses appareils. Dans ce spectacle, il assume pleinement sa surdité, et ça devient extrêmement touchant, extrêmement puissant de le voir, parce que si on ne le sait pas qu'il est sourd, on ne le voit pas. Et je pense que c'est là où c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on parle de ce parcours-là, et à la fin, le spectateur, la dernière image du spectacle, c'est qu'on voit Kai remettre ses appareils, et là, on comprend que oui, c'est
sourd. Ah, c'est fantastique. Alors, Neuf, comme la 9e symphonie de Beethoven, qui sert de support musical. Hein?
Oui, ben c'est sûr, c'est un clin d'œil à Beethoven qui lui-même a composé la musique en étant sourd. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Kai, ayant été implanté, n'a pas appris la langue des signes, mais on a quand même été intéressé par cet univers-là, nécessairement par la culture sourde, et on a fait traduire en fait tout l'hymne à la joie en langue des signes. Donc tous les danseurs de la compagnie ont appris l'hymne à la joie, et la fin du spectacle, c'est une version esthétique quand même de danser avec beaucoup de mouvements. On a rajouté le corps, les jambes, etc. Mais ça part de la langue des signes québécoise, vraiment la LRQ.
La LSQ,
LSQ québécoise. Donc chaque geste, si les personnes sourdes peuvent comprendre l'hymne à la joie, et pour Kai, finalement, lui, il a appris, on apprend la langue via les chorégraphies.
Alors écoutez, j'ai lu dans des papiers que c'est un spectacle extrêmement touchant, que les gens en sortent parfois bouleversés, mais bouleversés au point d'en pleurer. Ce spectacle-là a été présenté de nombreuses fois au Québec, mais alors là, grande nouvelle, la troupe s'est transportée en Europe, c'est bien ça?
Oui, en effet, on est extrêmement chanceux. Il faut savoir que la compagnie est partie avant-hier au Québec et ne reviendra qu'au début du mois de mai 2018. Wow. À la maison, on va présenter ce spectacle quasiment 80 fois en Europe, donc à savoir en France, aux Pays-Bas, en Belgique. Il y a des grandes maisons qui vont accueillir le spectacle, notamment l'Opéra de Paris, le Royal Opéra à Londres. On discute avec des grandes capitales. Donc on est extrêmement chanceux, puis je pense que c'est un très beau... c'est beau pour Kai de pouvoir danser sur ces plus grandes scènes-là, sans histoire.
C'est vraiment fantastique. Écoutez, vous m'en parlez, puis j'ai le frisson dans le dos, très, très, très honnêtement, Michael. On va se laisser là-dessus. Michael Spinirny, je voudrais quand même qu'on précise que le spectacle est présenté en collaboration avec une troupe dont je voudrais que vous nous disiez quelques mots.
Oui, alors c'est une co-création avec une compagnie belge, le Copper Gatteri, qui eux sont vraiment spécialisés pour la petite enfance en Belgique. C'est un des plus grands centres pour la petite enfance. Okay. Et eux, ils ont signé la dramaturgie du spectacle et ils ont fait tout un parcours. Il y a des vidéos qui sont projetées dans le spectacle avec un enfant sourd qui lui aussi a vécu un parcours un petit peu plus sinueux. En fait, il venait d'un pays de l'Est en Europe et ses parents pensaient qu'il était handicapé mental et il ne s'était pas rendu compte en fait qu'il était sourd. Et c'est quand ils sont arrivés en Belgique qu'ils ont découvert qu'il était sourd, qu'il fallait l'implanter et que finalement c'était un garçon intelligent comme tout le monde.
Bon.
Et c'est extrêmement touchant de le voir et de faire un parallèle avec ce parcours-là aussi.
Eh bien, Michael, merci beaucoup. Je suis contente d'avoir fait un peu plus connaissance avec la compagnie de danse Cap Public et j'espère que les auditeurs auront su apprécier et vont avoir hâte que vous reveniez au mois de mai.
Avec grand plaisir.
Au revoir, Michael. Bonne journée.
À bientôt. Au revoir.
Bien, merci à Michael et à Clotilde pour cette présentation. Si on veut avoir plus d'informations sur cette compagnie de danse, le www.kpublic.com, kpublic.com. On passe maintenant au dernier sujet de ce premier segment de l'émission. On rejoint au bout du fil M. Tom Siletta du gîte Vita Bella qui se trouve à Saint-Adolphe-d'Howard. Ça va me donner le goût, je pense, de prendre des vacances et d'aller relaxer. Bonjour M. Siletta.
Oui, bonjour Kevin, ça va bien?
Oui, merci beaucoup. Vous avez reçu un beau prix récemment, le 7 novembre dernier, qui soulignait l'accessibilité de vos installations. C'était dans le cadre de la première édition des prix Excellence Tourisme organisés par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Est-ce que vous pouvez m'en glisser un mot? C'est une belle fierté pour vous et votre équipe.
Oui, c'est une belle fierté parce que ça donne bien, c'est la première congrès. Puis on a le premier gîte qui est accessible, puis on a aussi gagné le premier prix. Donc, on est très heureux. C'est sûr qu'on fait un projet comme le nôtre, pas pour les médailles ou des plaques, mais c'est sûr que ça nous donne un coup de vent dans les ailes pour poursuivre notre projet, là, quand on est reconnu à l'échelle provinciale. Puis évidemment, on souhaite que cela va aussi nous amener un peu plus d'achalandage pour partager notre petit coin de paradis ici.
Bien évidemment. Parlez-nous-en donc par ailleurs de ce coin-là, parce que moi-même, je le connais pas. Ben, je le connais pas pour ne jamais l'avoir visité. C'est un beau coin?
Oui. On parle-tu de Saint-Adolphe-d'Howard? Oui. C'est sûr, c'est une municipalité, 4000 habitants, avec 85 lacs. Plein de nature, puis nous, on est heureux, on est en plein cœur, on est à 5 minutes du village, puis justement, on a notre lac, notre montagne, nos sentiers de randonnées, de raquettes, et on a un gîte qui a 2 ans de temps, une bâtisse, on pourrait dire flamant neuf, qui est un style champêtre, très, très épuré, très aéré, puis...
C'est pas très loin de Saint-Adèle et Saint-Sauveur pour les
gens.
Non,
on parle d'un rayon de 15 à 20 minutes des municipalités plus connues comme Saint-Sauveur, Saint-Adèle, Sainte-Agathe, puis Tremblant, c'est une quarantaine de minutes, Saint-Jérôme, une petite demi-heure.
Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont... Parce qu'évidemment, pour les personnes à mobilité réduite qui se rendent à votre gîte, est-ce qu'ils vont pouvoir profiter des sentiers autour où c'est difficile d'accès?
Il y a des sentiers au village que j'ai élaboré avec le personnel de plein air qui est accessible actuellement au moment qu'on se parle. C'est un peu sur l'asphalte, un peu en forêt, mais on est vraiment en milieu naturel. Puis nous, de notre côté, à notre gîte, on a l'accessibilité autour de la maison. Comme j'avais dit tantôt, on est en situation de montagne et lac. Donc, on peut faire le tour de notre maison, puis aller soit un coin de feu, faire cuire des guimauves. On peut aller dans une gazebo, faire la lecture, ou jouir d'une table de pique-nique.
Et jouer de la guitare autour du feu.
Jouer de la guitare près du feu. Puis il y a aussi un petit jardin de fleurs qu'on nomme, avec des rosiers, puis il y a environ une vingtaine d'espèces de fleurs qui poussent à travers l'été, là où il y a un petit banc pour se reposer, et la place suffisamment... des pierres japonaises qui sont entourées d'un genre de couvre-sol en tin. Donc, il y a des beaux odeurs et de belles visuels. On peut être en fauteuil.
Au Québec, il y a des chalets accessibles, mais vous êtes le premier gîte et encore aujourd'hui le seul qui est complètement accessible au Québec. Pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur d'ajouter cette corde-là à votre arc, celle de l'accessibilité?
Ouais, c'est une bonne question, Kevin. Une question qui nous est posée souvent. En résumé, je dirais que c'est pour donner aux voisins. C'est vraiment ça. En principe, mon épouse et moi, on a eu une vie pleine de réussite au niveau académique, santé, la famille, l'emploi. Donc, on est rendu, on a pris une pré-retraite pour justement dire la vie était bonne, fait qu'on veut la partager. Puis, on avait déjà un plan de construire un gîte. Donc, on s'est doté d'une mission assez particulière tant qu'à faire un gîte. On a dit, c'est de construire une maison confortable dans un environnement naturel et la rendre accessible aux personnes de partout dans le monde. Donc, c'est un phare qui est peut-être long, mais ça englobe ce qu'on veut. Non, c'est vraiment partager notre coin de paradis. Donc, accessible à la fois géographique de tout le monde, de partout dans le monde, et à la fois ceux qui sont en mobilité réduite.
Est-ce que c'est vraiment des coûts supplémentaires pour rendre accessible un gîte accessible? Parce que c'est souvent la première question qui nous vient en tête quand on est propriétaire d'un établissement.
Oui, c'est sûr que si on veut être 100% accessible, on tombe en dehors des normes de l'RBQ standard, donc tout ce qui touche porte, fenêtre, rampe, c'est une porte de 28 pouces, mettons une porte de 30 pouces versus un de 31, 32, c'est pas double le prix, mais c'est presque pour une pouce de plus, parce qu'on est en dehors des standards. Puis c'est de même pour au niveau de la plomberie, les cuves, l'espace physique aussi, ça prend beaucoup plus d'espace physique si on veut être vraiment accessible. T'en as compte des rayons de 1,5 mètres avant et après chaque porte.
Toutes ces informations-là privilégiées, vous avez pu l'obtenir grâce à une collaboration avec un organisme que l'on connaît bien, Kéroul. Comment est-ce qu'ils vous sont venus en aide pour vous aider?
Mais d'abord, je voulais dire que Kéroul, c'est vraiment, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est le rôle, la mission, c'est de rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte. Donc, avec cette mission, Kerroule est aussi l'interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme en toute matière d'accessibilité. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Puis, c'est dans cet aspect-là qu'ils sont venus à mon aide. Il y a des critères d'accessibilité qu'ils nous ont fournis avant même la construction, parce que c'est moi qui ai fait le plan. Puis chez Kerroule, il y a toute une équipe dynamique qui ont... c'est pas juste leur mission, mais ils ont à cœur que ça se passe vraiment ce qu'ils disent. Donc, j'ai eu de l'aide à la fois au niveau du plan, le design. J'ai eu de l'aide aussi pendant la construction, avant qu'on s'en va, c'est trop, on s'en est venu nous voir. Et évidemment, après, une fois terminé, Kerroule était encore là comme bon allié pour la promotion de nos gîtes. Puis Kerroule, eux, c'est sûr que, comme j'avais dit, sont interlocuteurs privilégiés, donc ils ont un bouquin avec les critères d'accessibilité qui sont inspirés du Code de construction du Québec, mais sont poussés un peu plus pour rendre vraiment une accessibilité universelle.
Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on parlait tout à l'heure des coûts supplémentaires qui étaient reliés à toutes ces... Ben, tous ces ajouts-là qui sont nécessaires pour permettre des séjours agréables aux personnes à mobilité réduite. Mais est-ce qu'ils sont au rendez-vous, cette clientèle à mobilité réduite-là?
Mais ce que je dirais, Kevin, on est à 25 % de capacité. Donc, c'est sûr qu'il y a de la place à l'amélioration. Mais ce qu'on pourrait dire, que il y a 60 % de nos invités. Moi, j'aime ça les appeler invités, mm-hmm. pas des clients. C'est du monde qui arrive chez nous. Nos invités sont à 60 % à mobilité réduite.
Ah, quand même.
C'est un des objectifs qu'on voulait beaucoup. Puis ce qui est intéressant aussi, Kevin, on commence à toucher le marché européen. Donc, on a eu des
Ah, bien ça, c'est sûr, oui. Moi, je me rappelle quand j'avais été en Europe puis que je cherchais du Québec des gîtes ou des chalets accessibles en Belgique ou en France. C'était pas facile. J'imagine que vice-versa, c'est la même chose. C'est un marché... important, puis un marché assez qui est en forte demande, je l'imagine.
Oui, c'est en forte demande. Je dirais, à date, par mon expérience, il faudrait avoir plus au niveau international, parce que eux, comme nous disent les Français quand ils arrivent, ils sont à la recherche des grands espaces ouverts, des lacs, des rivières. Puis nous, on a ce privilège-là, notre gîte, personnellement. C'est sûr qu'il y en a qui vont voyager au Vieux-Québec, au Vieux-Montréal, mais ils cherchent aussi des places comme le nôtre. Puis, en Europe, contrairement à ma connaissance au niveau canadien, puis je dirais même américain du Nord, il y a des agences spécifiques aux besoins, comme Undiscover, qui sont en Suède. Il y a les autres, c'est des agents qui promouvoient le tourisme accessible. Donc, quelqu'un qui est en situation d'handicap, il peut aller voir ce monde-là, puis il y a un réseau. Puis nous, on fait partie de déjà deux réseaux et on va travailler encore plus suite à notre prix pour essayer de faire partie de ces plateformes qui ont un but très, très spécifique, là.
Merci d'avoir pris un moment pour nous dire comment c'était une bonne décision d'affaires de rendre accessibles ces lieux.
Bien, merci à toi, Kevin, puis merci à vos auditeurs. Puis on va souhaiter à tous un bon hiver qui s'en vient.
Bien sûr.
Au revoir.
On se revoit dans quelques instants pour la suite de l'émission.